Il est 18h40 sur RCF Anjou et on continue ce rendez-vous d'Au cœur de l'Ouest avec votre invité Bastien et on parle d'une fondation ce soir.
Oui, la FASIC, la Fondation pour l'Action Sanitaire et Sociale d'Inspiration Chrétienne. Alors un nom un peu compliqué mais on va prendre le temps de vous expliquer à quoi sert cet organisme d'utilité publique depuis décembre 2017. Et pour cela, nous recevons Pascal Daluin, bonsoir.
Bonsoir Bastien.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur général de la FASIC. Vous occupez ce poste depuis février, je crois. Et on a fait le choix de vous inviter seulement maintenant parce que la Fondation vient de connaître un premier grand événement il y a quelques jours. On va en reparler dans un instant. Mais avant cela, précisez-nous, Pascal Daluin, à quoi sert exactement la FASIC? Quelles sont ses missions?
Alors d'abord, il faut faire un peu d'histoire. C'est-à-dire que la Fondation tient son origine dans les congrégations angevines qui sont au service des pauvres depuis... plus de 3 siècles et demi, voire 6 siècles. Et donc, les congrégations se sont interrogées sur la pérennisation de leur charisme et sur leur avenir il y a quelques années et se sont dit, voyant leur communauté vieillissante, qu'il fallait assurer la pérennité à la fois de leur charisme et des œuvres dont elles avaient la responsabilité depuis 3 siècles et demi. Donc, elles ont décidé de créer une fondation. Une fondation, pourquoi? Parce qu'une fondation, c'est un coffre-fort juridique. C'est-à-dire que ce que vous y mettez devient inaliénable. Et donc, pour elles, c'était une grande sécurité à la fois de pouvoir confier leur patrimoine à cette fondation et puis de s'assurer que cette fondation pérennise le charisme et la filiation chrétienne de leurs œuvres.
Donc, très concrètement, vous allez gérer ce patrimoine?
Alors, très concrètement, la fondation a 4 objectifs. Le premier, c'est bien sûr la pérennisation du charisme.
Et donc l'esprit des congrégations?
L'esprit des congrégations, la filiation chrétienne, l'inspiration à travers Vincent de Paul, François de Sales, qui est absolument importante et très structurante. Le deuxième objectif, c'est bien sûr de collecter des dons et des legs pour assurer le financement des projets de la Fondation. Le troisième objectif, c'est la gestion du patrimoine immobilier, parce que les congrégations confient leur patrimoine à la Fondation, et il est sécurisé puisque, comme je vous l'ai dit, la Fondation est un coffre-fort juridique. Et puis, la quatrième mission, c'est la gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux qui lui sont rattachés au fur et à mesure de la dissolution des associations de gestion des établissements.
Alors, ces établissements, ils étaient jusque-là justement gérés par ces associations, ces congrégations. Pourquoi faire appel à vous? Qu'est-ce qui marche plus exactement dans le modèle?
Alors, là aussi, il faut refaire un peu d'histoire. C'est-à-dire qu'au départ, les sœurs et les congrégations donc géraient en direct les établissements. Les sœurs, souvent, étaient des infirmières. Elles étaient au service des plus démunis dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite ou dans les foyers pour handicapés. En fait, toutes ces activités se sont sophistiquées et les sœurs aussi vieillissaient. Donc, elles ont jugé qu'il était important de transmettre ces œuvres aux laïcs. Et donc, il y a à peu près 20 années, elles ont décidé de confier la gestion des établissements qu'elles avaient dans leurs œuvres à des associations de gestion. Elles conservant, bien sûr, la propriété, souvent des terrains, voire des bâtiments, à travers des associations propriétaires. Donc, la réflexion qui est maintenant celle de la Fondation, c'est bien sûr de confier, à travers les associations propriétaires, le patrimoine des fondations, et puis de rattacher à la Fondation les établissements qui sont gérés maintenant par des associations avec des conseils d'administration et des présidents. Bon, ce qui se passe dans ces associations de gestion, c'est que les conseils d'administration vieillissent aussi, il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles, et puis par ailleurs, les financeurs, que sont l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, et le conseil départemental, poussent les établissements qui sont isolés à se regrouper pour des raisons évidentes à la fois d'économie et puis de meilleur fonctionnement. Donc cette tendance qui a d'une part de conseil d'administration vieillissant et puis d'une incitation de la part des financeurs font que la Fondation trouve tout son intérêt pour accueillir ces établissements et les regrouper dans un modèle original.
Vous l'avez dit, Pascal Daluin, la Fondation, elle est garant aussi de cet esprit chrétien de ces établissements. Est-ce qu'il y a un risque, j'allais dire, que entre dans ces conseils d'administration des gens qui ne partagent pas forcément ces valeurs et qu'on se détourne aussi de cet esprit? C'est aussi pour ça que vous avez que cette Fondation a été créée.
Alors, je ne porterai pas de jugement par rapport à ça. Simplement, on constate, on l'a vu dans l'enseignement catholique notamment, que si effectivement il n'y a plus de rattachement à un charisme, eh bien, inexorablement, au bout d'une dizaine d'années, l'établissement, qu'il soit scolaire, qu'il soit sanitaire ou médico-social, eh bien, perd toute filiation et tout lien avec le charisme. Donc, il est important de l'entretenir. Et donc, les sœurs avaient d'ailleurs mis en place ce qu'on appelle le réseau Sainte-Marie, qui était un réseau tout à fait exceptionnel, qui était à la fois dans la Somme et en Anjou, et qui permettait justement de fédérer les établissements et de les nourrir du charisme et de l'expérience, donc des congrégations religieuses. Le réseau Sainte-Marie s'est dissous il y a peu et a été remplacé par la commission laïque partenaire qui se met en place et qui va justement assurer pour l'avenir la poursuite, la pérennisation, le développement du charisme au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux qui sont issus des congrégations.
Vous le dites, entretenir le charisme, c'est pas carrément protéger, j'allais dire. On sait que c'est un marché quand même, ces établissements de santé, ces établissements qui accueillent des retraités. On sait que c'est un marché juteux, si j'ose dire.
Alors c'est un marché très rentable, puisque comme vous le savez peut-être, il y a des groupes privés qui ont investi ce marché et montrent des rentabilités tout à fait exceptionnelles.
Donc il y a quand même ce besoin de protéger.
Alors il y a ce besoin d'un accompagnement et d'une attention particulière à l'autre qui est issu directement du charisme des congrégations.
Très concrètement, Pascal Dalluin, aujourd'hui combien d'établissements se sont rattachés à la FACIC ?
Alors nous allons accueillir à partir du 1er novembre donc c'est tout frais, deux établissements emblématiques d'Angers qui sont la maison Sainte-Marie et puis la maison Saint-Martin, la maison de retraite Saint-Martin-la-Forêt, qui sont deux établissements à la fois emblématiques et historiques des congrégations. Donc ce sont deux EHPAD. Ils ont une particularité, c'est qu'ils sont tous les deux très complémentaires. C'est-à-dire d'une part, donc Saint-Martin est plutôt un EHPAD ouvert, alors que Sainte-Marie est un EHPAD et également dispose de deux unités, une unité pour personnes âgées désorientées, donc qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer, et une unité d'hébergement renforcé pour les personnes âgées qui présentent des troubles qui ne leur permettent plus de vivre en collectivité.
Donc ce sont les deux premiers.
Donc ce sont les deux premiers, ils nous rejoignent le 1er janvier, on est très fiers de les accueillir et on espère être à la hauteur de tout le travail qui a été fait par les conseils d'administration qui ont présidé aux destinées de ces établissements ces 20 dernières années.
La FACIC a été reconnue par le ministère en décembre 2017.
Un décret du 6 décembre 2017.
C'est ouais. Ça, donc il y a quand même un laps de temps, c'est long, les procédures sont longues pour pouvoir accueillir des établissements.
Alors effectivement, c'est un processus à la fois juridique, comptable, qui est assez long, parce que effectivement, les associations de gestion des établissements qui rejoignent la fondation doivent se dissoudre, et ça se fait avec un processus qui est juridiquement très encadré et très précis. Donc ça prend du temps, et puis il faut aussi convaincre, c'est-à-dire que
véritable dépossession quand même.
Alors attention, parce que les associations de gestion, on leur a confié ces établissements. Les congrégations ont confié ces établissements à ces associations. D'ailleurs, souvent, il y a une sœur ou deux sœurs au conseil d'administration de ces conseils d'administration. Et donc, ces conseils d'administration ne sont pas propriétaires. Ils sont dépositaires de l'œuvre que leur a confiée pour un temps donné les congrégations. Alors, effectivement, l'association est souveraine. Donc effectivement, si elle ne veut pas, alors que la vision des congrégations est de faire que ces établissements rejoignent la fondation, mais s'ils ne veulent pas le faire, ils restent souverains et les conseils d'administration sont souverains. Donc il faut faire beaucoup de pédagogie, il faut beaucoup expliquer la raison de la fondation et puis il faut être, je dirais, très humble par rapport à tout ce travail qui a été fait aussi par ces conseils d'administration qui est assez remarquable.
Pascal Dalluin, vous restez avec nous. On poursuit cet entretien juste après une page de publicité.
Avec plaisir.
À tout de suite.
Du 3 au 28 octobre, des évêques du monde entier se réunissent à Rome, autour du pape, pour le synode sur les jeunes, la foi et les vocations. RCF vous propose une programmation spéciale, avec des interviews et des reportages dans toutes ses éditions. Chaque soir de la semaine, à 19h10, retrouvez le magazine du synode, réalisé en partenariat avec Vatican News. Le synode des évêques sur les jeunes se vit sur RCF. Retrouvez la programmation complète sur rcf.fr. au cœur de l'Ouest, 50 minutes d'information de proximité avec David Mainfroy sur RCF Anjou.
Et à 18h50, c'est la suite de l'invité d'Au cœur de l'Ouest avec vous, Bastien Allier, et votre invité qui est ce soir Pascal Daluin, le directeur général de la FACIC.
Oui, la Fondation pour l'Action Sanitaire et Sociale d'Inspiration Chrétienne. On a parlé de ses missions en première partie d'interview. J'aimerais parler un tout petit peu de son fonctionnement. Comment est-elle organisée, cette FACIC ?
Alors la Fondation FACIC, c'est un modèle très original, parce que c'est un modèle léger, hein, c'est un modèle, j'allais dire, low cost, c'est-à-dire qu'on a une structure qui est constituée donc d'un directeur général, d'une directrice administrative et financière, d'une directrice des ressources humaines, et puis bien sûr d'une assistante pour le back-office de la Fondation. Et le principe fondateur, l'un des principes fondateurs de la Fondation, c'est le principe de subsidiarité. Donc ça veut dire que la Fondation s'appuie sur les talents qui sont dans les établissements qui la rejoignent. Donc c'est la raison d'être de cette structure très légère. Et puis, l'une des raisons d'être aussi de la Fondation, c'est de respecter l'autonomie et l'identité des établissements qui la rejoignent. En général, quand vous rejoignez un groupe, vous devez vous plier au processus, à la hiérarchie, à l'organisation du groupe.
Il n'y a pas d'ingérence ?
Il n'y a pas d'ingérence. Il y a une vision stratégique partagée, et puis il y a une exécution de cette vision stratégique partagée également.
Est-ce que siègent dans cette fondation des personnels, des membres de l'Église ?
Alors, au niveau de la gouvernance, il y a donc un conseil d'administration. Donc ça, c'est la gouvernance d'une fondation, qui est justement plus simple qu'une association, où vous avez un conseil d'administration et puis une assemblée générale. Dans le cadre d'une fondation, vous avez un conseil d'administration qui est constitué de façon très réglementée. C'est-à-dire que vous avez un collège des fondateurs, vous avez un collège des personnalités qualifiées, et puis vous avez un collège institutionnel. Et donc, dans le cadre de ces collèges, vous avez les représentants des congrégations fondatrices, vous avez deux représentants du diocèse, et puis vous avez un collège de personnalités qualifiées avec donc notamment notre président, Patrick Creuset, et puis des administrateurs qui sont issus de la société civile et qui sont chefs d'entreprise, directeurs d'associations, anciens médecins, donc qui contribuent par leur expertise à définir les orientations stratégiques de la Fondation. Mais il y a ce collège des fondateurs avec trois sœurs et une personne représentant les diocèses qui sont là pour justement veiller à ce que les principes définis pour la Fondation sont bien respectés.
La Fondation aussi, ce statut pour pouvoir recevoir des legs, des dons, c'est aussi ça l'objectif ?
Alors la Fondation, et c'est aussi important de le souligner, c'est que les établissements qui nous rejoignent fonctionnent avec des financements qui viennent du conseil départemental et de l'Agence régionale de santé. Donc ces financements sont bien sûr très strictement contrôlés, très strictement encadrés. Et donc nous, on a une volonté de vouloir privilégier aussi l'innovation et l'ouverture à d'autres, je dirais, à l'innovation tout simplement. Et donc nous avons besoin de pouvoir financer ces projets qui ne sont pas dans le cadre des financeurs. Et donc il est important que la Fondation puisse effectivement recevoir des dons et des legs pour financer ces projets, tout simplement.
Vous auriez un exemple d'un investissement, justement, qui ne serait pas dans le cadre de l'argent que peut donner les collectivités ? À quoi ça pourrait servir ?
Par exemple, on a, vous savez que, et ça je tiens à souligner la qualité et l'engagement du personnel de ces établissements qu'on ne rappelle jamais assez. Eh bien, par exemple, pour essayer de rendre leurs tâches moins pénibles, notamment pour porter les malades, eh bien, on peut avoir un projet de, parce que donc il y a des techniques avec des rails qui sont des techniques assez élaborées qui permettent de transporter le malade dans des conditions idéales sans que le personnel soignant soit en difficulté et sans que ce soit pénible pour lui. Eh bien, ces équipements sont très coûteux. Et donc, clairement, on peut faire appel aux dons pour cela. Il y a un autre exemple. J'ai eu l'occasion de visiter un EHPAD congréganiste où la directrice voulait absolument que les résidents puissent avoir l'occasion de sortir à l'extérieur et de façon, je dirais, à la fois agréable et sportive, si on peut dire. Et donc, elle a eu l'idée de créer, de créer des tricycles qui permettent avec un accompagnant qui lui pédale et donc fait marcher le tricycle, de pouvoir emmener une personne âgée avec elle et de pouvoir partir en promenade sur les routes de campagne. Bon, un tricycle, ça coûtait, je crois, de tête 20 000 euros. Et très clairement, elle a essayé de trouver, elle a pris sa canne et son chapeau, comme on dit, pour trouver un financeur. Et elle a trouvé, en l'espèce, c'était la famille Dassault qui a accepté de financer 5 tricycles pour permettre aux résidents de pouvoir se promener au printemps, l'été et à l'automne à l'extérieur. Voilà des exemples.
Beau projet. Vous l'avez dit, Pascal Dalluin, il y a deux EHPAD pour l'instant qui ont rejoint la FACIC. Est-ce qu'il y a d'autres négociations en cours ?
Alors, je ne parlerai pas de mot de négociation parce qu'on n'est pas dans l'univers lucratif, mais effectivement, on a des établissements importants qui ont confirmé leur intention de rejoindre la Fondation. Donc, le premier d'entre eux, ce sont les établissements Saint-Martin à Beaupro, donc qui, eux, ont à la fois une activité d'hôpital, une activité de personnes âgées sur les personnes âgées et puis une activité sur le handicap. Donc, ils se sont engagés donc à nous rejoindre pour le mois de juillet de l'année prochaine.
Juillet 2019.
Donc c'est à peu près 250 salariés, ce sont de très gros établissements qui vont nous rejoindre. Et puis on est en discussion très avancée avec le village Saint-Joseph à Chaudron, en Mauges, qui trouve très intéressant justement le projet de la Fondation et son modèle, et donc qui a manifesté l'intérêt de nous rejoindre.
Est-ce qu'il y a eu des pourparlers avec d'autres établissements hors du département ?
Alors, nous avons potentiellement un réseau qui avait été créé d'ailleurs par les congrégations angevines dans la Somme, qui est un réseau de 14 établissements. Et ce réseau, potentiellement, a vocation à rejoindre la Fondation à l'échéance de 2021. Il y a tout de même un réseau de 14 à 16 établissements dans le domaine de la personne âgée et du handicap. Donc là, il y a vraiment aussi un réseau important qui est susceptible de nous rejoindre. Et puis ensuite, la Fondation, elle est ouverte. C'est-à-dire qu'elle a une vocation nationale et tout établissement qu'on organise qui souhaiterait trouver une ombrelle peut rejoindre la Fondation et entamer des discussions avec elle.
Un dernier mot, Pascal Dalluin, sur les enjeux des mois à venir maintenant pour la Fondation.
Alors les enjeux, c'est déjà de réussir l'intégration des deux établissements qui nous rejoignent. Et je pense qu'il faut qu'on soit à la fois très humble et qu'on soit aussi progressif dans notre démarche. Et donc on est en train de travailler avec les directions d'établissements, avec les présidents de conseils d'administration, avec les conseils d'administration aussi, pour réussir ces intégrations et faire que on puisse vraiment apporter un nouveau développement, un nouvel élan à ces établissements, tant au niveau du personnel que des résidents qui sont accueillis.
Merci beaucoup en tout cas d'être venu témoigner sur notre antenne. Pascal Dalluin, je rappelle que vous êtes le directeur général de la FACIC, la Fondation pour l'Action Sanitaire et Sociale d'Inspiration Chrétienne.
Merci Bastien.